Vous écoutez bien Radio France Internationale, il est midi et demi en temps universel, 14h30 à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Kantner, bonjour à toutes et à tous. Le cardinal Robert Francis Prévost, élu pape hier soir sous le nom de Léon XIV, chef de l'ordre des Augustins, il s'est déjà rendu à plusieurs reprises en Afrique et notamment en République démocratique du Congo, où l'on se souvient avec émotion de son passage dans les lointaines provinces du Haut et du Bas-Ouélé. Au Tchad, l'ancien directeur de cabinet du président Mahamat Déby, Idriss Youssouf Boy, condamné ce matin à 5 ans de prison et à une amende d'1 million de francs CFA pour corruption passive. Quant à celui qui avait porté plainte contre lui, l'homme d'affaires Abou Tachim Bouder, il est aussi condamné à la même peine. Au Sénégal, 5 anciens ministres soupçonnés de détournement des fonds de la lutte contre le Covid seront bientôt jugés par la Haute Cour de justice. Les députés ont voté hier leur mise en accusation. Et puis une conférence de l'UNESCO pour accélérer la protection des sites remarquables du continent africain. Elle se déroule cette semaine à Nairobi au Kenya. Lazare Elundu, le directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO, est l'invité d'Afrique Midi. C'est un pape américano-péruvien que le conclave a élu hier au Vatican. Léon XIV, il connaît aussi l'Afrique qu'il a visitée quand il était prieur général de l'ordre de Saint-Augustin. C'était entre 2011 et 2013. Il y a rencontré les communautés locales augustiniennes, notamment en République démocratique du Congo, à Amélie Tulé, où il a fait plusieurs séjours.
Notamment à Kinshasa, d'où hier, bien sûr, le révérend père Olivier Gangola Bawa a suivi l'élection du nouveau pape.
Pour moi, c'était une grande surprise qui m'a affecté jusqu'à ce que j'ai commencé à pleurer, puisque je ne m'y attendais pas. Et le voir au balcon, c'était pour nous une grande joie, une émotion impossible.
Le vicaire régional des Augustins au Congo, très ému aussi par les premiers mots prononcés par le pape, message de paix et d'unité.
Le pape qui ne s'est pas contenté d'aller à Kinshasa, il a parcouru plus de 2000 kilomètres depuis la capitale congolaise jusqu'à Isiro en avion, puis il a pris la route pour rejoindre la lointaine paroisse de Dougou dans le Haut-Ouélé.
Et il était aussi allé à Poko dans le Bas-Ouélé et à Amadi. Le père augustinien Michel Mivunguba Kanerou à l'époque était du voyage, un long voyage éprouvant.
Il a voulu faire l'expérience de ce que nous avons fait. Il a pris les moyens de déplacement que nous on utilise là-bas, les véhicules. On s'est rendu là où on devait se rendre, dans de grandes distances, mais les conditions de voyage à cause de la route aussi très difficiles, il les a acceptées. Il a logé dans les conditions que nous lui avons préparées. Il a mangé tout ce que nous avons mangé là-bas. Il n'a pas exigé autre chose. Quand on a écouté d'abord son nom, quand on a dit Robert Prévost, nous avons tous crié, nous étions nombreux au salon. Quelle émotion, on n'a pas su se contenir.
Émotion jusqu'à Dungu, près de la frontière avec le Soudan du Sud, où aujourd'hui encore, il y a une communauté, 7 frères augustiniens, dont le père Blaise Mbinko Yesu. En 2010, quand le pape, qui n'était pas encore pape, est venu à Dungu, il avait 17 ans, il était pré-novice.
Mais voilà, il s'est montré fort, il était épanoui avec les confrères. Quelqu'un qui n'a pas de limites, qui peut entrer facilement dans le monde, non seulement des grands, mais aussi des plus petits. Et nous avions toujours les vêpres à 18h30, et il était toujours le premier. Un homme méditatif, mais aussi discipliné pour ce qui concerne sa vie spirituelle. Nous voulons qu'il soit un pape qui va beaucoup plus unir l'Église, mais qui va aussi être quand même aux côtés des plus petits, comme l'a fait son prédécesseur.
Voilà, le père Blaise à Dungu, près de la frontière avec le Soudan du Sud, qui verrait bien donc le centre de formation professionnelle tenu par les frères augustiniens, très bientôt baptisé Léon XIV.
Léon XIV qui a été prieur général de l'ordre de Saint-Augustin entre 2001 et 2013. Le Vatican annonce ce matin que la messe d'inauguration du pontificat aura lieu dans un peu plus d'une semaine, dimanche 18 mai. Véronique Guémard, vous êtes notre envoyée spéciale à Rome. Ce matin à 11h, le pape a célébré dans la chapelle Sixtine la messe qui clôturait le conclave, avec une homélie qui a imprimé la tonalité.
Oui, le pape Léon XIV a célébré cette messe de clôture du conclave qu'il a élu, entouré des cardinaux. Il a parlé en anglais, il a prononcé son homélie en italien en citant le modèle d'humanité du Christ, déplorant le manque de foi chrétienne, je cite, Dans des contextes, on lui préfère d'autres certitudes comme la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir, le plaisir. Lors du dîner hier soir avec les cardinaux qui l'ont élu, il a confié avoir choisi son nom, Léon XIV, en se situant dans la lignée de Léon XIII, un pape de la fin du XIXe, début du XXe siècle, qui, en pleine révolution industrielle, a soutenu les ouvriers en appelant à davantage de justice sociale. Et aujourd'hui, en plein air du numérique et de l'intelligence artificielle, eh bien, c'est cette même préoccupation qui l'anime.
Le nouveau pape Léon XIV sera-t-il un pont entre le Nord et le Sud, Véronique ?
Alors, en tout cas, c'est ce que plusieurs Africains et Latino-Américains que j'ai croisés ici près de la place Saint-Pierre m'ont dit ce matin, des religieux, religieuses, laïcs, qui ont été très touchés par ses premiers mots lors de son apparition en place Saint-Pierre ce jeudi, la paix, marcher ensemble et puis n'ayez pas peur. Voilà, ces trois mots. Robert Prévost a passé plus de 20 ans au Pérou, vous l'avez dit en introduction, très proche des populations paysannes pauvres. Et il a aussi voyagé à plusieurs reprises, effectivement, en Afrique. Et cet Américain engagé chez les Augustins, un ordre mendiant, est né à Chicago dans une famille d'origine italienne, française, espagnole. Il incarne aussi cette universalité, ce pont entre le Nord et le Sud. Plus discret que François, il est attendu sur l'unité de l'Église, mais aussi sur les thèmes de société.
Véronique Guémard, envoyée spéciale de RFI au Vatican. Au Tchad, Idriss Youssouf Boy a été condamné ce matin à 5 ans de prison et une amende d'1 million de francs CFA. L'ancien ministre et ancien directeur de cabinet du président Mahamat Idriss Déby est reconnu coupable de corruption passive. Quant à son accusateur, l'homme d'affaires About Hachim Bouder, il est condamné lui aussi. Nadia Ben Mahfoud, on vous retrouve en direct de N'Djamena. Le verdict renvoie les deux hommes dos à dos.
Oui, Idriss Youssouf Boy et son accusateur About Hachim Bouder écopent tous les deux de la même peine pour respectivement corruption passive et active. L'ancien bras droit du président aurait perçu plusieurs milliards de francs CFA de la part de l'homme d'affaires en échange de l'obtention de marchés publics. Maître Gérandi Laguerre Dionro, l'un des avocats d'Idriss Youssouf Boy, a dit sa surprise après ce verdict. Pour lui, il n'y a pas de preuves matérielles dans le dossier qui attestent que son client a pris de l'argent. L'avocat dit avoir l'impression d'une manipulation politique de la justice. Il estime que son client gêne, que des gens ont intérêt à lui nuire politiquement pour avoir l'espace de faire, je cite, tout ce qu'ils veulent auprès du chef de l'État, Mahamat Idriss Déby. Les avocats d'Idriss Youssouf Boy annoncent donc poursuivre la bataille et faire appel immédiatement. Et puis du côté d'About Hachim Bouder, maître Gadjadoum Josué estime qu'il s'agit d'une très mauvaise décision du point de vue juridique. Le juge disqualifie les infractions d'escroquerie, d'abus de fonction et de trafic d'influence, mais que fait-on du corps du délit, s'interroge l'avocat de l'homme d'affaires. Hier, lors de son réquisitoire, le procureur parlait d'argent public usurpé. Pour les avocats de l'homme d'affaires, Idriss Youssouf Boy aurait donc dû être condamné à rembourser les 11 milliards 800 millions de francs CFA directement au trésor public.
Nadia Ben Mahfoud en direct de N'Djamena. En République démocratique du Congo, le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies annonce qu'il divise par deux ses objectifs d'aide. OCHA invoque des déficits critiques de financement. L'appel aux dons lancé en février dernier portait initialement sur 2 milliards 600 millions de dollars. Mais face à la faiblesse des contributions, la communauté humanitaire se recentre désormais sur les personnes les plus vulnérables. Passion Ligaudi, la suspension de l'aide américaine n'est pas étrangère à cette décision. C'est un sérieux recul dans la réponse humanitaire en RDC.
Les tendances étaient déjà inquiétantes, Nicolas. À fin avril, seuls 9% des fonds requis avaient été mobilisés, environ la moitié du montant recueilli à la même période en 2024. L'une des principales causes de cette chute, vous l'avez dit, la suspension de l'aide américaine qui représentait à elle seule 70% du budget humanitaire l'an dernier. Une aide qui finançait des secteurs vitaux comme la sécurité alimentaire, la santé ou encore la réponse aux urgences humanitaires. D'autres bailleurs ont eux aussi réduit leurs engagements et face à cette situation, l'ONU a été contrainte de réajuster ses priorités. Une liste rouge des interventions vitales a été établie. Les activités dites de priorité 2 moins urgentes pourront être différées ou rééchelonnées. Des millions de personnes risquent donc de ne plus bénéficier d'assistance. L'autre axe sur lequel travaille l'ONU, c'est renforcer le plaidoyer auprès des nouveaux partenaires, gouvernements, secteur privé, bailleurs de développement. Enfin, cette crise met aussi en lumière les responsabilités du gouvernement congolais. Il est appelé par l'ONU à accroître son engagement budgétaire, à fournir des contributions en nature, notamment en matière logistique et d'accès, et à renforcer la coordination au niveau provincial et local, un appui essentiel selon l'ONU pour permettre aux humanitaires de se focaliser sur les urgences sans avoir à compenser les failles systémiques dans la fourniture des services publics.
Au Gabon, le président Brice Clotaire-Oligui Nguema a procédé hier à l'issue du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement à une vague de nominations, près de 80 personnes à la présidence. Brice Clotaire-Oligui Nguema, François Mazet, remanie notamment son premier cercle de collaborateurs.
Et oui, alors que la Ve République concentre tout le pouvoir exécutif à la présidence, il a décidé de remplacer ceux qui furent les principaux rouages du palais depuis septembre 2023. Son bras droit, le secrétaire général Guy Rossatangarino, cède sa place à Muriel Minkoué-Minsa. La ministre de la réforme des institutions sous la transition a été la cheville ouvrière du dialogue national et de l'élaboration de la nouvelle constitution. À la tête du cabinet privé, Virginie Ouora-Eteno succède à Victorine Chico. Le chef du protocole est aussi remplacé. Le directeur de la communication, la direction passe entre les mains de Patricia Lidi Mouélé, en provenance de la chaîne de télévision d'État Gabon Première. Et Théophane Biyogé, qui était un des porte-parole du candidat Oligui, prend cette fonction à la présidence. Pas de changement, en revanche, à la garde républicaine, où le général de brigade Antoine Balakrida est confirmé. Plusieurs acteurs politique entre également au palais, comme l'ancien candidat à la dernière présidentielle, Alain Simplice Bounguéré. Ces nominations, Nicolas, interviennent dans une dynamique de renouvellement et de consolidation de l'équipe dirigeante. C'est en tout cas ce que dit la présidence de la République.
Au Mali, les partis politiques ont annoncé hier soir le report du meeting qui était prévu aujourd'hui au monument de l'indépendance à Bamako. Regroupement de plusieurs dizaines de formations politiques, ils dénoncent des manœuvres visant à provoquer des violences lors du rassemblement prévu. Ils évoquent notamment des menaces sur les réseaux sociaux et la diffusion de fausses informations concernant l'heure et le lieu du meeting. Les partis politiques rejettent à nouveau la suspension de leurs activités sur décret du président de la transition. Une délégation iranienne était en visite au Niger, arrivée mercredi à Niamey et conduite par le commandant général des forces de l'ordre et de sécurité iranienne. Elle a été reçue par le ministre nigérien de l'Intérieur, le général Toumba. Selon l'agence nigérienne de presse, les échanges ont porté sur la coopération pour lutter contre l'insécurité. Il est 13h43 à Niamey.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, au Sénégal, l'Assemblée nationale vote la mise en accusation de 5 ministres soupçonnés d'avoir détourné les fonds de la lutte anti-Covid. Et les sports avec le championnat national de RDC à Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe s'est à nouveau incliné face à son rival local de Lupopo 1-0. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce vendredi, en Centrafrique, le directeur de publication du journal Le Quotidien de Bangui a été arrêté hier. André Ulrich Nguema Ngokpele est mis en détention dans les locaux de la section de recherche et d'investigation. Une délégation de journalistes locaux a pu lui rendre visite ce matin. Elle dénonce une détention arbitraire. Les raisons de cette interpellation ne sont pas encore connues. Au Sénégal, 5 anciens ministres soupçonnés d'avoir détourné des fonds de la lutte contre le Covid seront bientôt jugés par la Haute Cour de justice. Les députés ont voté hier leur mise en accusation, Biraïm Touré.
Moustapha Diop, Amadou Mansou Faye, Aïssatou Sofie Gladima, Salimata Diop et Ismaïla Major Fall, tous d'anciens ministres qui ont servi sous le magistère de Macky Sall, constituent le premier lot de ministres qui vont passer devant la Haute Cour de justice. Ainsi en a décidé l'Assemblée nationale qui a voté ce jeudi les résolutions de mise en accusation pour faire la lumière sur la gestion des finances attribuées à la lutte contre le coronavirus. Une partie de ce fonds, Force COVID-19, destinée à soutenir les ménages et entreprises en difficulté durant la pandémie, aurait été détournée, selon un rapport de la Cour des comptes qui a poussé le parquet financier de Dakar mi-avril dernier à annoncer sa volonté de poursuivre devant la justice un certain nombre de personnes, dont d'anciens ministres. Les députés ont donc majoritairement décidé de donner le feu vert à la justice. Depuis 1960, la Haute Cour de justice n'a été sollicitée qu'à deux reprises. En 1963, pour juger l'ancien président du Conseil Mahamadou Dia, et en 2005, l'ancien premier ministre Idriss Seck, qui avait bénéficié finalement d'un non-lieu total. Biraïm Touré, Dakar, RFI.
Les sports du football, le derby de Lubumbashi a fait l'animation hier de la cinquième journée des playoffs du championnat national en RDC. Le tout-puissant Mazembe s'est incliné 1-0 face au FC Lupopo dans le stade de Kamalondo. Dur décidément pour les Corbeaux. Ils n'ont battu leurs rivaux de Lupopo qu'une seule fois sur les 9 dernières confrontations. Reportage à Lubumbashi, Pascal Mwangala.
Les supporters de Lupopo tout en liesse au stade Mazembe, cette victoire a un goût particulier. C'est la première dans ce stade de Kamalondo depuis sa construction en 2013. De quoi rendre fier le coach français de Lupopo, Luc Emaï.
On a fait le job et de belle manière. Je suis très heureux bien sûr pour les fanatiques de Lupopo qui sont extraordinaires. Maintenant on doit continuer, certainement pas s'enflammer.
Pour l'attaquant camerounais Maxwell Djoumekou, arrivé chez les Jaunes et Bleus depuis 2 saisons, ce succès signifie beaucoup.
Nous respectons bien cet adversaire, mais c'est pour ça que nous avons eu une motivation de plus avec les encouragements du président et du staff technique. On a eu une victoire, donc nous on dit merci.
À l'opposé, les fans de Mazembe ont mis du temps pour vider les gradins de leur stade. Question de digérer leur déception, Lupopo est redevenu leur bête noire. Certains évoquent l'absence de leur président Moïse Katumbi en exil politique depuis plusieurs mois comme la cause de ce qu'il qualifie de contre-performance dans le plus grand derby de la ville. Pascal Mwangala, Lubumbashi, RFI.
Et Lupopo revient au classement. Après 4 journées, le club compte 9 points. Comme Mazembe qui lui a 5 journées, une hécatombe de vautours dans le célèbre parc Kruger en Afrique du Sud. Selon l'agence des parcs nationaux sud-africains, 123 vautours de différentes espèces en voie de disparition sont morts, Igor Strauss, après avoir ingéré les restes empoisonnés d'un éléphant.
La carcasse du pachyderme servait d'appât. Elle avait été préalablement imprégnée de pesticides par des braconniers sans scrupules, une méthode de plus en plus en vogue en Afrique australe pour cibler des espèces comme le lion, dont les organes sont prisés dans la médecine traditionnelle, mais qui fait de nombreuses victimes collatérales. John Davis de la fondation Endangered Wildlife Trust.
L'empoisonnement de la faune sauvage est une catastrophe. Des animaux comme les vautours sont particulièrement touchés, même s'ils ne sont pas la cible initiale. Ils peuvent parcourir de grandes distances et découvrir des carcasses très facilement. Et quand l'un d'eux commence à manger, les autres le suivent. Des centaines d'oiseaux peuvent donc être empoisonnés en même temps sur un site.
Souffrant d'un certain désamour en raison de leur statut de charognard et d'un manque d'élégance, les vautours jouent pourtant un rôle essentiel, comme le rappelle John Davis.
L'Inde est un exemple concret. Quand les vautours ont été décimés dans les années 80-90, le nombre de chiens errants a considérablement augmenté et de nombreux Indiens ont contracté la rage. Pour le système de santé du pays, c'était une catastrophe.
Ce cas d'empoisonnement est le plus grave depuis 2019. À l'époque, plus de 500 vautours avaient trouvé la mort dans des circonstances similaires dans un pays voisin, le Botswana.
Il est 14h48 à Paris. Anne Kantner, les grands titres de ce vendredi 9 mai.
La première messe célébrée par le pape Léon XIV ce matin dans la chapelle Sixtine. Il a déploré le recul de la foi au profit de l'argent, du pouvoir et du plaisir. Et estimé que la mission de l'Église était urgente en ces lieux car le manque de foi entraîne souvent des drames, a dit le souverain pontife, comme la violation de la dignité de la personne ou la crise de la famille, selon lui. Un grand défilé militaire à Moscou ce matin pour commémorer la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, en présence des présidents chinois et brésiliens notamment. Au même moment, des représentants des pays alliés de l'Ukraine étaient réunis à Lviv pour approuver la création d'un tribunal spécial chargé de juger la Russie pour l'invasion de l'Ukraine. Et toujours dans ce contexte, le président français et le premier ministre polonais ont signé un traité prévoyant notamment une assistance mutuelle en cas d'agression. Enfin, un mot de foot, Xavi Alonso quittera le Bayer Leverkusen à la fin de la saison et à en croire la presse allemande et espagnole, l'entraîneur pourrait se retrouver à la saison prochaine sur les bancs du Real Madrid. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, l'invité d'Afrique Midi.
accélérer le processus d'inscription des sites africains au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'objectif affiché par cette institution qui co-organisait cette semaine avec le Kenya une importante conférence où tous les États du continent étaient représentés. La protection de sites remarquables d'Afrique, berceau de l'humanité, est une urgence car le continent est à la traîne. Moins de 12% des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO sont africains. Lazare Elundu, le directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO, est l'invité de Guillaume Thibault.
Bonjour Lazare Elundu.
Bonjour.
Avec 150 sites africains inscrits, l'Afrique est donc sous-représentée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Manque de moyens, manque de volonté politique. Pourquoi les États du continent sont-ils, entre guillemets, à la traîne dans ce processus ?
C'est une réalité, c'est vrai. Les raisons sont multiples. Il y a un besoin de continuer à former les experts. Il y a aussi toutes les autres questions que vous avez évoquées, mais il n'y a pas de mauvaise volonté de la part de l'Afrique. Il y a plutôt aujourd'hui un engagement. Les priorités du continent sont les mêmes que celles de l'UNESCO. D'ailleurs, une des priorités part du constat qu'il y a encore en Afrique 11 pays qui n'ont aucun bien sur la liste du patrimoine mondial. Et nos priorités, c'est l'amélioration des législations patrimoniales dans les pays. Et c'est la préparation de candidatures satisfaisantes qui ne posent aucune difficulté pour justifier de l'importance et de la valeur des sites africains.
Il n'est jamais trop tard, Lazare Elundu, comme le dit la chanson. Néanmoins, est-ce que des sites ont été perdus par manque justement d'engagement?
Oui, il y a aussi cette réalité. Il y a des sites qui sont en train de disparaître. C'est un constat qui est global sur le monde entier. Mais l'Afrique étant le berceau de l'humanité qui a cette diversité, cette richesse, il est important de se mobiliser pour que cela ne se poursuive pas. Alors, il faut identifier tous ces sites. Et c'est pour ça que l'Afrique se mobilise et nous soutenons tous les pays africains pour se faire.
Comment est-ce qu'aujourd'hui on explique à un chef d'État qu'il a tout intérêt à ce que des sites, des forêts, des parcs nationaux soient classés au patrimoine mondial ?
Il y a aujourd'hui des défis, les conflits armés, le changement climatique, où on voit des feux de forêt. Nous expliquons à tous les pays, le patrimoine aujourd'hui joue un rôle important dans le développement local et aussi dans l'appropriation historique des États, parce que ce patrimoine raconte l'histoire. Quand on protège son patrimoine, on est fier de partager cette histoire avec tous les autres dans le monde entier.
Est-ce que l'UNESCO peut aujourd'hui travailler dans des pays en guerre ou en conflit ?
Oui, l'UNESCO est présent dans toutes les zones où le patrimoine est menacé à cause des conflits, au Soudan, au Mali. Nous avons une stratégie et une expérience prouvée, comme nous l'avons fait à Mossoul pour reconstruire le patrimoine. Et aujourd'hui, au Soudan, où les biens culturels sont volés, nous sommes présents, nous formons les professionnels à la sauvegarde de ces biens, à mettre en place des mesures d'urgence pour les sauvegarder. Nous suivons la situation sur le terrain. Nous avons des outils de mesure et de contrôle par les satellites pour comprendre un peu la situation, pour mieux informer la communauté internationale et aussi pour prendre des décisions qui permettent de soutenir tous ceux qui peuvent sauvegarder encore ce patrimoine.
Est-ce qu'on peut prendre un exemple d'un site, d'un lieu qui a été concrètement sauvé ces dernières années ?
L'exemple qui me vient est celui des tombes des rois du Buganda à Kasubi en Ouganda. Ce site du patrimoine mondial a été incendié en 2010 et a été placé sur la liste en péril parce que un des monuments les plus importants qui abritait les tombeaux des rois a été complètement détruit. Alors, l'UNESCO a lancé un programme de reconstruction très ambitieux qui a permis la reconstruction en coopération avec les autorités de l'Ouganda, mais aussi les communautés locales. Le succès de cette reconstruction, 13 ans après, c'est-à-dire jusqu'en 2023, est dû au fait que la plupart des techniques traditionnelles de reconstruction ont pu être sauvegardées. Des jeunes ont été formés. Ce sont ces jeunes qui prendront la responsabilité pour la sauvegarde et l'entretien de ce site. Et c'est pour ça que ce site a été retiré de la liste du patrimoine mondial en péril en 2023.
Cette conférence de Nairobi doit marquer une nouvelle étape. Vous souhaitez faire signer un document de Nairobi. Quels sont les points essentiels de ce texte?
Les discussions qui ont lieu ici à Nairobi permettront d'élaborer un document des résultats. Comment améliorer, travailler sur la conservation des sites qui sont déjà inscrits afin qu'ils ne, certains ne soient pas sur la liste du patrimoine mondial en péril. Un aspect très important aussi, renforcer la participation des communautés locales dans la gestion du patrimoine africain. Parce que les communautés qui sont d'ailleurs présentes à cette conférence ont rappelé qu'elles sont les gardiennes de ces sites depuis des générations, et que c'est important qu'elle soit au centre des décisions. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu l'esprit que nous avons voulu en organisant cette conférence ici à Nairobi, au moment où nous célébrions aussi la Journée africaine du patrimoine mondial.
Merci, Lazare Lundu.
Merci.
Lazare Lundu, invité de Guillaume Thibault. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications. C'est le combat le plus important de sa carrière. À 33 ans, le boxeur franco-sénégalais Souleymane Sissoko affronte demain le lituanien Egidijus Kavalioskas dans le cadre d'une demi-finale mondiale chez les moins de 67 kilos. Le combat a lieu à Malabo, en Guinée équatoriale. Un événement historique pour la boxe africaine, peu mis en lumière, mais aussi pour Souleymane Sissoko lui-même, qui réalise son rêve de combattre près de son pays natal. Sofiane Amazian l'a rencontré à Paris quelques heures avant son départ.
Moi, lorsque j'étais un peu plus jeune, lorsque je voyais Ali boxer à Kinshasa, c'était fou. Et lorsque j'ai une proposition de pouvoir boxer en Afrique, mais j'ai sauté dessus.
Calme mais plutôt déterminé, Souleymane Sissoko, habillé tout en noir, ne chôme pas avant de décoller vers Malabo. Une séance de sparring à haute intensité, la sueur coule, les coups pleuvent et les casques encaissent les droites. Parfaitement remis de sa blessure à la main contractée en fin d'année 2024, Souleymane Sissoko compte les jours avant son combat en Afrique.
Ça fait partie de moi, partie intégrante de moi. Je suis très investi aussi là-bas sur l'aspect associatif, etc. Et je puise énormément de force là-bas.
Acteur de l'organisation de la soirée, Souleymane Sissoko a vu les choses en grand. Seront présents sur la carte le petit-fils de Mohamed Ali, Nico Ali Walsh, et un boxeur de renom né au Cameroun, Kevin Lele Sadjo, grand fan du médaillé de bronze avec la France lors des Jeux de Rio en 2016.
C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, beaucoup, sur le ring et en dehors du ring. Pas son humilité, son intelligence, style vraiment, avec cet événement, relancer la boxe en Afrique pour les jeunes Africains, pour le public africain, parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent, qui ont besoin de moteurs, et on a un moteur aujourd'hui qui est Souleymane Sissoko. On ne peut que l'encourager à aller vers l'avant.
Au niveau soutien psychologique pour Souleymane, ça lui fait plaisir d'avoir Kevin à ses côtés qui boxe dans la même soirée.
Karim El Ayani est le coach principal de Kevin Lele Sadjo, lui aussi engagé il y a quelques semaines dans une demi-finale mondiale qui ne s'est finalement pas tenue. La présence d'un autre gros nom à Malabo, qui plus est un ami, devrait rassurer Souleymane Sissoko.
Malgré que ça reste un sport individuel, dans la boxe il y a toujours un esprit d'équipe. Et voir les gens qu'on apprécie être à ses côtés à ce moment-là, ça fait toujours plaisir.
À travers cet événement inédit qui doit raviver la flamme de la boxe en Afrique, le natif de Dakar voit déjà d'autres opportunités à l'avenir.
C'est un test en tout cas pour la Guinée équatoriale, c'est un test, mais je sais qu'eux, ils ont à cœur d'organiser d'autres shows, d'autres événements. La boxe est aimée partout en Afrique, ça reste le noblard, ça reste un sport qui plaît.
Une victoire face à Egidijus Kavalioskas, et la route pour la ceinture va se dégager. Souleymane Sissoko, champion du monde, l'objectif d'une vie, la suite. Une défense de titre, si possible, au Sénégal, chez lui, à Dakar.
Merci Sofiane Amazian. Fin de cette demi-heure africaine réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Mickaël Goncalves et Cécile Périllard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À lundi, Nicolas Sûr. Vous restez sur notre antenne, on se retrouve dans un peu plus d'une minute pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. On reparlera bien sûr de l'élection du nouveau pape. Léon XIV, à tout de suite.
Vous souhaitez réécouter ce journal ? Rendez-vous sur Internet www.rfi.fr. Un jour au village, Penaï Traoré.
cabane perchée sur l'eau, pirogue naviguant entre les plantes, derrière ce décor de carte postale se cache une autre réalité. Nous nous intéressons cette semaine aux problèmes d'eau potable dans les villages lacustres au Bénin. Nous en parlerons avec notre invité André Todje, le maire de la commune de Soava.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI. L'épopée des musiques noires.
La destinée du chanteur et pianiste Stevie Wonder, qui va fêter ses 75 ans, est aujourd'hui connue de tous. Ses nombreux succès discographiques et ses engagements personnels ont fait sa légende. Que sait-on cependant de ses premiers pas, quand à 12 ans, il suscitait déjà l'attention des oreilles les plus affûtées? L'éditeur Patrick Frémaux nous raconte son parcours vertigineux dans l'épopée des musiques noires avec Joe Farmer, samedi à 13h31.
RFI.